9h-10h, côté expert sur France Bleu La Rochelle, Jean-Luc Porte.
Et on plante des aromates ce matin, des plantes aromatiques dans notre jardin. Le guide qui va vous conseiller, c'est Rémi Marcotte. Rémi le jardinier, les jardins respectueux de Château Bernard. Bonjour Rémi.
Bonjour Jean-Luc.
Oh, c'est bien une voix du dimanche matin ça Rémi.
Ah bon? Oui, c'est vrai.
Vous avez encore fait des folies de votre corps hier soir, j'ai l'impression.
Ah, il y a des choses à fêter le samedi soir.
C'est vrai, c'est vrai. On est ravis de vous retrouver en tout cas, Rémi Marcotte. Les auditeurs vont pouvoir vous interpeller au 05 46 50 67 68. Pourquoi ce choix des plantes aromatiques ce matin? C'est le printemps qui met vos sens en éveil?
Oui. Puis c'est important en fait de relever ces plats et puis d'avoir tout sous la main dans son jardinet. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'arômes qui se réveillent dans le jardin en ce moment, même s'il fait frisquer. Il faut faire attention à certaines pratiques, puisque les gelées tardives sont pas encore, peuvent encore arriver. Ouais. Mais voilà, il y a pas mal d'aromates dispo dans le jardin, et c'est toujours un plaisir d'aller les sentir et de les utiliser en cuisine.
Ah oui, surtout de les utiliser en cuisine, bien sûr. Et on va en parler avec vous, les auditeurs, ce matin jusqu'à 10h. Experts du jardin, on plante des aromatiques ce matin en compagnie de Rémi Marcotte, que vous pouvez évidemment interroger, avec qui vous pouvez venir discuter également ce matin des plantes qu'il faut installer dans son jardin. Ceci dit Rémi, et on va peut-être débuter par ça, si on n'a pas la chance d'avoir un grand jardin comme vous, ces plantes, certaines en tout cas, on peut les trouver dans la nature.
Oui, c'est ça. Au gré des promenades, on arrive à se servir de ce que la nature nous propose. Je pense notamment, voilà, on a le fenouil qui pointe ses tiges en ce moment, qui commence à bien pousser. Le laurier sauce, par exemple, qui est un arbuste qu'on peut utiliser en cuisine. La pimprenelle aussi, qui a un chouette goût de noix verte. Voilà, plein de dons de la nature qu'on peut trouver lors de ces promenades. Le thym aussi, thym serpolé sur les pelouses sèches. Voilà, c'est des choses qu'on trouve facilement. Et il y a l'ail des ours aussi. Vous connaissez l'ail des ours?
Oui, parce que je vous connais, vous, et on en parle assez régulièrement de l'ail des ours.
On en a déjà parlé, oui.
C'est
assez magique, ce moment. On est sur la fin.
C'est puissant,
de l'ail des ours.
L'ail des ours.
Comment?
C'est puissant, l'ail des ours, Rémi.
C'est assez puissant. Ouais, en effet, ça va nous ramener une bonne haleine.
Ouais, c'est ça, de chacal.
C'est peut-être d'ailleurs l'origine de son nom. Et l'ail des ours, en fait, on peut en faire des pestos. Ça pousse généralement en quantité. Et on peut se servir en ce moment. Et on utilise toute la plante, c'est-à-dire de la feuille jusqu'à la fleur, jusqu'à le bulbe, les bulbilles aussi. Voilà, c'est une plante très intéressante et qui parfume. Après vos préparations, vous mettez un pesto à l'ail des ours avec vos pâtes, tout de suite, ça a un autre goût.
Mais pas avant un rendez-vous galant, on est bien d'accord, Rémi.
C'est ça, c'est pour ça que ça pousse un peu après la Saint-Valentin. Les ours.
D'accord.
Ça arrive dans les bois à partir de début mars.
C'est pour ça qu'on l'appelle l'ail des bois aussi, ou l'ail sauvage, quoi, tout simplement.
Oui, alors il y a plusieurs, je crois qu'on dit des os, oui. Il y a plusieurs ails disponibles avec la nature, pardon, et il y a notamment l'ail triquette qui est plus d'origine bretonne, enfin qui se développe aussi en masse. Et oui, c'est l'ail des bois, oui, ou l'ail des ours. L'ail des ours, c'est plus son nom vraiment typique, puisque c'est l'Allium ursinum. Voilà. Et si on l'appelle aussi comme ça, je pense, l'histoire la plus plausible, c'est que c'est la première plante que l'ours va consommer en sortie de l'hibernation. Voilà.
À condition que l'ours hiberne, ce qui n'est plus trop le cas en ce moment l'hiver. Enfin, chez nous, en France en tout cas.
Oui. Hein? Mais il a besoin quand même de se purger avec des plantes comme l'ail des ours. Et donc, voilà, ça permet aussi de lui enlever son bouchon. Voilà, quand il mange beaucoup moins, mais il y a un bouchon qui se crée. Et puis voilà, avec l'ail des ours, ça permet encore d'entendre le pet de l'ours résonner dans toute une vallée.
D'accord. Et si on ne l'entend pas, on peut le sentir en tout cas. Voilà, c'est pour les délicatesses du dimanche matin. Rémi, ça fait pas partie de la famille des poireaux, l'ail des ours, des poireaux sauvages?
Alors, Allium murcinum, poireau, oui, c'est un allium aussi. Attendez,
je suis en train de vous faire chercher dans vos références latines, là, j'ai l'impression.
Oui, c'est ça.
Hein, c'est ça.
C'est loin tout ça.
Ouais. En tout cas, c'est en ce moment. Bon, c'est pas important. C'est en ce moment. En tout cas, c'est la fin de la saison de l'ail des ours là, en ce moment, mi-avril.
C'est la fin de la saison parce que l'ail est fleuri, mais on l'utilise encore fleuri. C'est vrai que on préfère avoir les belles feuilles intactes. Aujourd'hui, elles sont un peu plus attaquées par les limaces, certains escargots qui viennent ronger un peu ces feuilles. Et il faut aussi savoir que les plantes sauvages, vaut mieux les consommer très vite après leur apparition, puisqu'on ne sait pas ce que nous a réservé le temps qui est passé dessus. Mmh. Voilà, certains animaux ont pu uriner sur ces feuilles. Enfin, voilà, donc on préfère les prendre tendres.
Bien sûr, il vaut mieux les rincer, les nettoyer avant de les utiliser en cuisine. Je vous ai pas posé la question, on aurait pu commencer par ça. Ça ressemble à quoi l'ail des ours? Et si on n'a pas un ordinateur sous la main, on fait comment? Il n'y a pas une petite application, vous connaissez pas ça vous Rémi? Une application qui permet d'identifier ces aromates qu'on trouve dans la nature?
Si, il y a des applications qui existent, mais le meilleur don que l'on peut avoir, c'est le nez. Voilà, un nez. Ouais. Parce que l'ail des ours, si vous la froissez, vous la sentez, oui, ça sent l'ail. Ouais. On peut pas se tromper. Et surtout pas se tromper avec, par exemple, le muguet, la feuille de muguet qui
ressemble. C'est ce que j'allais vous dire, ça ressemble un petit peu au muguet, effectivement, de loin.
Et attention, le muguet, vaut mieux pas les avoir dans l'assiette, c'est toxique. Donc il faut faire bien sûr attention quand on fait de la cueillette sauvage, mais l'ail des ours, on peut pas se tromper si on a l'odorat, et voilà, on peut la reconnaître facilement comme ça.
Allez, on attend vos appels ce matin au 05, c'est dimanche matin, je sais, il fait beau, je sais aussi, mais on attend quand même vos questions et vos appels au 05 46 50 67 68 pour venir parler de jardin et de plantes aromatiques avec Rémi le jardinier jusqu'à 10h. Plante des aromatiques dans nos jardins, avec les bons conseils et vos questions, évidemment, les auditeurs. Les bons conseils de Rémi Marcotte, les jardins respectueux de Château-Bernard, et vos questions, les auditeurs, au 05 46 50 67 68. Est-ce que c'est le moment, Rémi, en ce moment, de semer son persil? On va démarrer par le persil, qui est vraiment l'une des aromatiques de base que l'on doit posséder dans un jardin, qu'il soit plat ou frisé, et qu'on va récolter en plus toute l'année.
Oui, incontournable, le persil, en effet, c'est le moment, on peut le semer. Alors c'est vrai que ça prend ou ça prend pas. Ce qu'il faut savoir, en fait, sur les graines de persil, il faut pas les garder trop longtemps. C'est-à-dire que si vous voulez semer du persil, utilisez vos graines très rapidement, parce que la faculté germinative de ces graines diminue fortement d'année en année.
Même quand il est au noir dans son sachet, pardonnez-moi.
Eh bien oui, il a une durée de vie. Cette graine, en fait, perd de sa capacité petit à petit à bien germer. Donc il faut l'utiliser dès que vous récoltez en fait les graines. Voilà, il faut pas passer plus d'un an ou deux à rigueur, mais vous allez avoir moins de réussite si vous attendez longtemps. Si vous avez récupéré vos propres graines, il faut le semer l'année d'après. Ouais.
C'est ça. Mais alors j'ai pas la réponse là sous les yeux, mais il y a pas une date de péremption sur même les sachets de graines? Non.
Alors,
selon vous?
Mais il y a des graines qui vont. Je dirais que les dates de péremption, je pense qu'elles sont, elles n'indiquent pas forcément la capacité des graines à bien germer dans le temps. Ouais. C'est plus les sachets vont être disponibles 3 ans et puis après on a cette date de péremption qui est indiquée. Mais le persil est une des plantes comme le péria aussi qui est le chiso. Voilà, le chiso. Si on le garde 2 ans, et ben on a moins de réussite dans sa germination. Et par contre, les tomates, on peut les garder beaucoup plus longtemps. Alors, c'est pas des aromates, mais voilà, on a des plantes comme ça où les graines vont pouvoir se garder 10 ans et se ressemer facilement.
Ouais. C'est ça. J'y reviens à mon persil. Vous dites persil, hein, vous Rémi, mais les deux sont autorisés de toute façon.
Bah oui,
d'accord. Ça dépend du coin de France où on est né en général. Le persil ou le persil. C'est le moment de semer ces graines. En ce moment, on plante pas directement en pleine terre. C'est encore un petit peu trop tôt. Vous avez parlé des gelées tardives qui peuvent encore survenir au mois d'avril, à la fin du mois d'avril.
Oui, alors c'est bien de protéger en fait ces semis, c'est bien de choisir un endroit bien ensoleillé, assez chaud, où la terre s'est un peu réchauffée.
Une serre.
C'est bien de faire attention aussi de bien préparer sa terre, de pas forcément utiliser du compost et surtout du compost qui est pas encore bien dégradé.
Ouais.
C'est le gros souci aussi quand on fait nos semis.
C'est quoi, c'est du terreau plutôt?
Bien, ou alors du compost vraiment dégradé sur voilà une année où on a plus de on va pas créer une fin d'azote, c'est-à-dire que la dégradation de cette matière, on en a parlé la fois dernière, demande de l'azote et c'est l'azote qui sera pas disponible pour la plante. Et généralement voilà le persil a besoin pas mal d'azote pour germer mais aussi pour se développer.
Ouais.
Et si on veut pas qu'il jaunisse très vite, voilà, il faut pas lui créer cette fin d'azote et pas avoir une terre trop riche.
Donc
en compost,
si on plante ses graines, si on fait son petit sillon là en ce moment dans un coin de terre, sur une jardinière, sur son balcon, ça va lever dans quoi, dans 5-6 semaines? Il faudra éclaircir, comment on fait Rémi?
Oui, ça prend le temps et c'est pour ça que généralement, si on n'est pas patient et qu'on a oublié qu'on a semé du persil à cet endroit, eh bien, on a de grandes chances de revenir sur ces plates-bandes et puis voilà de considérer que bah, ça n'a pas marché. Donc il faut être patient. Vous pouvez éclairer un petit peu vos semis si vous avez fait un peu concentré. Il y a des petites choses à faire après la levée de la graine. Et puis après, vous allez pouvoir l'utiliser, oui, dans trois mois. Et l'avantage après, c'est que ça peut rester plusieurs années,
c'est
deux
ça.
Ans, et que le persil est un peu moins tendre. Il faut pas des grosses gelées non plus. Il faut arriver à le protéger des grosses gelées. Mais voilà, c'est une plante qui est semi-permanente, oui.
Et qui est indispensable, incontournable dans son potager. On dit, et on terminera là-dessus, concernant le persil, Rémi, que le persil pousse où il a envie de pousser. C'est lui qui décide.
Ouais, en fait, la meilleure façon de réussir son persil, c'est d'en avoir un peu et de le laisser ressemer.
C'est ça.
Et c'est lui qui va décider finalement quand ouais. il va pouvoir se ressemer et où exactement.
Voilà.
Et c'est la meilleure façon de réussir son persil, en effet.
Bonjour Eric qui attend et qui nous appelle depuis Chaniers. Soyez le bienvenu, Eric.
Merci, bonjour.
Bonjour.
Moi, j'aurais une question parce que j'ai sorti, la fin de l'année dernière, on avait fait de la coriandre asiatique. On l'avait rentrée dans la véranda cet hiver, la VGD. Elle était bien partie. Et là, quand on l'a sortie, la semaine dernière. Et les feuilles ont toutes jauni, elles sont quasiment mortes. Alors, est-ce qu'on l'a sortie trop tôt? Est-ce que c'est le soleil? Parce qu'il y a le soleil du matin, mais pas d'après-midi. Et les feuilles ont complètement séché. Alors, est-ce qu'on l'a sortie trop tôt?
Bonjour Eric.
Bonjour.
La coriandre, quand vous dites coriandre asiatique, c'est la coriandre que vous avez semée, qui était une
annuelle. C'était un pied qu'on avait acheté l'année dernière, qu'on avait mis en pot l'année dernière. Il avait très bien tenu toute l'année. On l'avait rentré comme ça dans la véranda, histoire de dire on ne sait jamais si elle repart. Et elle était bien repartie. C'est celle qui a les feuilles longues avec des fois des petites traces noires, enfin colorées à l'intérieur. Et elle était très bien repartie, elle était bien verte. Et là, on l'a sortie, il y a une semaine à peu près, il y a une petite semaine, et toutes les feuilles ont jauni d'un coup.
Alors, c'est sûr que les températures de cette semaine ont été quand même assez basses. Hein. Ça fait le yo-yo. Hein. En avril, on a vraiment des températures où on se met facilement en t-shirt. Et puis, deux jours après, on se retrouve avec 5 degrés. Donc, c'est assez délicat pour ces plantes-là de les sortir au mois d'avril. Ou en tout cas, il faut éviter de cette différence de température et de faire subir ça aux plantes. Est-ce que c'était trop tôt? Sûrement pas, parce qu'on a vraiment eu des jolies journées, des belles nuits pas trop fraîches. Là, en ce moment, c'est un peu délicat, oui. On a vraiment des grosses différences de température, et ça, certaines plantes n'apprécient pas trop. Hein.
Ouais, donc peut-être la re-rentrer pour essayer de la faire repartir dans la véranda, quoi, en fait.
Oui, surtout avec ce qu'ils annoncent. Ouais, ils annoncent quand même du froid cette semaine, et ça va descendre pas mal. Donc oui, je pense que c'est préférable de la rentrer.
Ouais, c'est amusant parce qu'on avait fait la même chose avec la livèche, et elle est très contente dehors. Là, elle est impeccable. Elle vit très bien. Donc je vais la re-rentrer, on va essayer de la sauver, hein, parce que c'est très très agréable, ça, dans les cuisines aussi. Comme,
ah oui.
La coriandre asiatique.
La coriandre. Voilà. On a vérifié ou pas, hein. C'est bien la coriandre ou... Eric, là, Rémi, vous savez, pas. C'est le ou la coriandre.
On va dire là.
Oui, cela. Bon. D'accord. On va dire là, puis on vérifiera après. D'accord, Eric?
D'accord.
Merci en tout cas d'être intervenu dans l'émission. Bon dimanche à Chanier.
Merci.
Bon dimanche. On continue de parler des plantes aromatiques avec Rémi Marcotte, le jardinier. Et vos questions au 05 46 50 67 68. On est de retour après quelques messages et les plus belles chansons de votre vie.
Jusqu'à 10h, France Bleu La Rochelle vous facilite la vie avec Côté Expert. Côté Expert. 05 46 50 67 68.
Dans les experts du jardin, le dimanche matin jusqu'à 10h, on plante aujourd'hui des aromates en compagnie de Rémi Marcotte, les jardins respectueux de Château Bernard. On a évoqué quelques variétés, Rémi à l'instant, l'ail des ours, la coriandre avec la question de Rémi, le persil aussi. Est-ce que concernant la disposition, il y a des petites techniques pratiques et utiles à connaître?
Alors oui, les aromates ont chacune leurs besoins. C'est des besoins assez particuliers, des besoins en eau. Certaines aromates préfèrent des sols bien drainés et pas trop d'eau. D'autres aiment bien l'humidité constante. Le soleil aussi, l'ensoleillement, mi-ombre, bien ensoleillé. Voilà, tout dépend des besoins de la plante. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir les connaître et pour bien les situer dans son jardin, pour bien les positionner, pour les planter au bon endroit.
Vous appelez ça d'un nom particulier? C'est une technique qui porte un nom particulier?
Eh bien, c'est bien connaître sa plante. En fait, c'est surtout par expérience se rendre compte que voilà, on va réussir un peu mieux cette plante à cet endroit. C'est révéler le génie du lieu aussi. C'est ce que j'aime beaucoup défendre en fait dans cette démarche, hein, une démarche d'observation, une démarche de connaissance aussi de la plante, d'un lien qui s'est fait avec la plante et de comprendre le monde végétal pour après bien pouvoir positionner toutes ces plantes. Oui.
Mais ma question était plutôt, est-ce qu'il y a un ordonnancement particulier, Rémi, à avoir pour pouvoir condenser, c'est dimanche matin, pour pouvoir condenser toutes ces plantes dans un espace relativement restreint, mais avec l'orientation qui convient bien à chacune d'entre elles?
Eh bien oui, il y a une petite astuce sympathique. Bon. C'est de pouvoir construire sa spirale des aromates, c'est-à-dire pouvoir créer un petit relief dans son jardin en forme de spirale, en forme d'escargot, et ainsi reproduire plusieurs, reproduire les besoins, en tout cas plusieurs ensoleillements, plusieurs humidités, taux d'humidité dans la terre, parce que cette spirale, en fait, elle se matérialise comme ça, c'est un volume en trois dimensions, et on va avoir donc un sommet à 1,50 m, et puis ça va descendre petit à petit jusqu'à rejoindre même une dépression qui sera, elle, beaucoup plus humide.
Ouais.
Et ça va créer justement des zones ombragées, et des zones mi-ombre et des zones très ensoleillées.
Ah, pour imaginer ça, c'est vraiment la coquille d'escargot.
Oui. Tout à fait, ouais. Une belle coquille d'escargot ça demande quand même un peu de temps de construction. On peut le faire en pierre sèche, on peut le faire en bois. Voilà, il faut maintenir cette terre en talutage. Donc il y a un peu de temps à passer sur la construction de cette spirale. Mais ensuite, on est assez satisfait en fait de pouvoir concentrer différentes aromates qui ont justement des besoins très divers et puis pouvoir justement les utiliser fraîches dans sa cuisine.
Ouais, c'est ça.
Généralement, on positionne la spirale pas très loin de la cuisine ou de l'habitation.
Ouais, et une spirale, finalement, ça peut faire quoi? 1 mètre carré, comme un puits, en somme?
Oui, un peu. Oui, moi j'aime bien. Plus. Il faut quand même un peu plus de place. 2 mètres carrés, c'est pas mal. On est sur ou 2 mètres de diamètre, voilà. Plus comme ça. Il faut considérer 2 mètres de diamètre pour une belle spirale avec on va dire plusieurs étages. Enfin, on a deux trois étages. Ouais.
On parlera du niveau des plantes, si vous voulez, Rémi, dans un instant.
Volontiers.
Qu'est-ce qu'on doit mettre en bas plutôt pour l'humidité? Qu'est-ce qu'on doit mettre plutôt en haut, le plus près du soleil? Voilà, c'est la suite de vos experts du jardin. Vous intervenez quand vous le voulez, vous le savez, grâce à ce numéro 05 46 50 67 68. La plantation de plantes aromatiques dans nos jardins. Question posée ce matin à Rémi Marcotte, les jardins respectueux à Château-Bernard. Et Rémi nous parlait à l'instant de cette technique appelée la spirale aromatique. En gros, on s'inspire, on fait du biomimétisme, hein, comme en parlait en tout cas Patrice Drevet un peu plus tôt ce matin sur France Bleu, Rémi. C'est-à-dire que on regarde, on copie ce que nous propose la nature, les animaux.
Oui, donc de la cagouille par exemple.
Hein, de la cagouille.
La spirale de la cagouille. Hein. Ouais. Ou la cagouille des aromates. Pour plus avoir un nom local pour
ouais, c'est ça.
Cet aménagement.
Après, c'est plus intéressant d'avoir une cagouille de Bourgogne qu'un petit gris du Poitou, par exemple.
Oui, après,
un petit gris charentais.
Vaut mieux pas trop avoir de cagouilles dans sa spirale, puisque voilà, elles vont se servir avant vous. Quoique dans les aromates, il y a pas beaucoup, à part l'oseille qui est quand même bien mangée. Mmh. Mais on a beaucoup d'aromates qui finalement, en les mélangeant aussi, se protègent les unes des autres.
Alors on parle de romarin, de thym, de menthe, de basilic, de ciboulette, de coriandre. Pour faire sa spirale finalement, on peut très simplement, comme on faisait avec le compas à l'école, planter un bâton dans la terre, tendre une cordelette et dresser son cercle comme ça.
Alors là, vous allez faire un cercle.
C'est ça.
C'est pas tout à fait une spirale.
Ah ben c'est la base de la spirale, en tout cas.
C'est la base de la spirale, en effet. Après, il faut agrandir son rayon petit à petit. C'est la suite de Fibonacci. Il y a un peu plus de mathématiques à faire pour tracer cette spirale. Ou bien sinon, on peut la tracer un peu comme on le sent. Hein, on l'agrandit en fonction aussi de son jardin. Ça peut être très grand votre spirale de cagouille. Elle peut être assez volumineuse et assez étendue.
C'est ça.
C'est selon la disponibilité ou la place que on va lui conférer dans son jardin.
Alors qu'est-ce qu'on y met dans cette spirale, Rémi ? Et on commence par les plantes aromatiques les plus basses, hein, les plus proches du sol, celles qui ont besoin le plus d'humidité.
Le plus d'humidité et un peu plus d'ombre aussi, selon un peu l'orientation de votre spirale.
Ouais.
On sait que la menthe aime bien l'humidité, la mélisse aime bien l'humidité. On a des plantes comme ça où vaut mieux les mettre à la fin de votre spirale plutôt qu'au sommet où là elles vont prendre le soleil, elles vont prendre la sécheresse aussi. Et il faut qu'elles résistent à cette sécheresse. Et donc là, on est plus sur, vous voyez, des menthes, de la ciboulette aussi qui aime bien l'humidité, l'oseille. On parlait de l'oseille. Voilà, l'oseille aime bien un peu d'humidité, la mi-ombre, ouais. Le persil aussi, mi-ombre, hein, on n'est pas non plus plein soleil, surtout pendant l'été. On va monter petit à petit, après, vers une zone plus aride, qui va accueillir d'autres aromates qui, elles, vont résister plus, justement, à la sécheresse, et puis, qui aiment bien un taux d'ensoleillement beaucoup plus élevé.
Alors, bah, elles s'appellent comment ces aromates, justement, qui aiment plus le soleil et un peu moins l'humidité?
Voilà, c'est ça. Alors, on va commencer par le romarin. Voilà, le romarin, on sait très bien sa résistance, à la sécheresse. Le thym aussi, le thym serpolé, si on en trouve dans les pelouses sèches de Charente, eh bien oui, c'est bien parce que c'est une plante qui aime bien la sécheresse ou en tout cas des terres très bien drainées et qui souffrirait en fait d'un taux d'humidité trop fort. Après, on a sarriette aussi, qui aime bien se retrouver au sommet. Des exemples de plantes qu'on va retrouver au sommet de sa spirale.
Ah oui, vous êtes déjà tout en haut, vous, Rémi, ça y est.
Ah oui, j'étais un peu vite peut-être.
Mais comment il grimpe l'école, c'est incroyable ce garçon, hein, incroyable. J'avais une question à vous poser concernant la nature de la terre qu'on va mettre dans cette spirale. Est-ce que c'est la même terre partout? Puisqu'on a parlé de taux d'hygrométrie, on a parlé d'orientation vis-à-vis du soleil, mais est-ce que la nature de la terre est la même tout au long de la spirale en fonction de la nature de la plante aromatique qu'on y plante?
Alors oui, on aime bien rajouter un peu de cailloux, un peu de sable, en haut. Après, ce sont une granulométrie qui va se retrouver de toute façon avec le ruissellement dans la partie basse, et puis retrouver en partie basse une terre un peu plus argileuse qui va contenir en fait cette humidité, qui va bien protéger en fait, elle va pouvoir diffuser lentement cette humidité à la plante.
Mmh. Et avec ça, eh ben écoutez, on aura de quoi mettre de bonnes plantes aromatiques dans notre cuisine. Plantes aromatiques qui contribuent aussi à la biodiversité, puisque elles attirent bien sûr les oiseaux et les insectes.
Oui, c'est aussi des plantes hôtes qui vont accueillir justement quelques papillons, par exemple. On a la menthe qui aime bien accueillir certains papillons. Qui vont choisir en fait de pondre sur ces aromates et qui vont permettre à certaines chenilles de se développer et ensuite égayer nos jardins avec justement des variétés de papillons très intéressantes et puis qui peuvent justement se reproduire grâce à la diversité des plantes que l'on cultive chez soi.
Est-ce qu'on met des plantes compagne justement dans cette spirale aromatique ou pas du tout?
Alors, en fait,
et vous nous rappelez ce que sont les plantes compagnes, Rémi ?
Oui, les aromates, c'est souvent des plantes compagnes. C'est-à-dire que c'est souvent des plantes qu'on aime et qui apprécient aussi la compagnie d'autres plantes, peut-être pas des aromates. Par exemple, les tomates, le persil ira très bien avec les tomates. Le persil, enfin le basilic aussi ira très bien avec les tomates. En fait, c'est des plantes qui vont se protéger ou en tout cas grandir ensemble et pouvoir bien produire ensemble. Après, on a des plantes qui sont plus contradictoires. On a des diffusions, par exemple, d'hormones avec les racines du romarin, par exemple, qui vont diminuer la croissance de plantes potagères. Donc, les plantes compagnes, on appelle plus plantes compagnes dans un jardin où on mélange les plantes potagères avec les aromates.
Mmh. Voilà. D'accord. On a fait le tour de la spirale, Rémi ?
On a fait le tour de la spirale.
Est-ce que vous souhaitiez, pour terminer, nous parler de l'actualité au fil de l'eau et d'une fête de la nature ? On a une petite minute trente devant nous pour conclure.
Eh ben c'est parfait. C'est parfait pour cet instant où on pourrait se retrouver au jardin respectueux au mois de mai, puisqu'on prépare la fête de la nature et mon territoire au fil de l'eau. Donc c'est un événement qui se fait sur un week-end, le 25-26 mai. Et pendant cet événement, il y aura plein d'artistes, plein d'artisans, des chants, des groupes musicaux, mais aussi du théâtre, des représentations. Il y aura plein de choses qui vont se passer au Jardin Respectueux sur ce week-end-là, qui est aussi un week-end très important au niveau national, puisque c'est la fête de la nature sur toute la France. Donc on va regrouper un peu toutes nos connaissances qu'on a pu des rencontres aussi qu'on a pu faire au Jardin Respectueux et arriver à créer une belle fête autour de cette thématique qui est aussi la thématique de l'eau et pouvoir un petit peu apporter des infos sur ce que c'est un bassin versant, comment justement apporter sa pierre à l'édifice pour éviter le ruissellement, essayer de discuter autour de la problématique de l'eau et notamment cette année on a quand même bien vu qu'il y a eu pas mal d'inondations. Et est-ce qu'il y a des actions à mener autour de la qualité de cette eau et autour justement de la meilleure infiltration jusqu'aux nappes?
Voilà, les 24 et 25 mai, donc la fête de la nature au Jardin Respectueux de Château-Bernard à côté de Cognac. Et si vous restez un peu tard, vous entendrez peut-être Rémi chanter une petite chanson du Nord.
Peut-être plus tôt, je ne sais pas. Je ne sais pas à quelle heure je vais pouvoir chanter, mais...
Manque jamais l'occasion de s'amuser. Rémi Marcotte, les Jardins Respectueux. Merci Rémi, c'était très intéressant comme d'habitude. Avec vous, merci, bon dimanche.
Merci Jean-Luc, bon dimanche.
Reposez-vous bien, la semaine redémarre demain.